Merci d'écouter RFI, 8h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec l'Équateur à la une au lendemain des élections. Le premier tour de la présidentielle est très serré entre le sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche, Luisa Gonzalez, qui à eux deux obtiennent l'immense majorité des voix. Analyse dans quelques minutes avec notre invité. Nous verrons aussi avec notre envoyé spécial au Texas que les groupes criminels, les passeurs, utilisent l'IA pour abuser ceux qui tentent de passer la frontière et leurs proches, frontière du Mexique vers les États-Unis. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises. Alex Léveillé, nous irons avec vous en Martinique et en Guadeloupe.
Et oui, pour parler du taux de suicide inquiétant chez les hommes et le non-remplacement des enseignants au-delà de 2 semaines.
À tout à l'heure. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité, c'est le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec d'abord des droits de douane plus élevés qui nuiraient à tous les pays.
L'avertissement ce matin de l'Allemagne après l'annonce de Donald Trump de nouvelles taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium, plus 25%, mais aussi de droits qu'il qualifie de réciproques pour tous les pays qui en imposeraient aux produits américains. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Bruxelles, l'Union européenne réplique comme elle l'avait déjà fait lors de son premier mandat. C'est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui l'a affirmé aujourd'hui.
Oui, pour Jean-Noël Barrot, la réplique de l'Union européenne est acquise d'avance. Il y aura des droits de douane miroir pour répondre aux droits imposés par les États-Unis. Tout comme lors de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump lors de son premier mandat, le président de la Banque Centrale Européenne, Luis de Guindos, plaide pour la prudence en attendant une décision effective de la Maison-Blanche. Le ministre allemand de l'économie plaide, lui, pour la poursuite de la coopération transatlantique. Mais de son côté, la Commission européenne a déjà répondu par avance pour critiquer les intentions de Donald Trump. C'est très inhabituel et d'autant plus frappant que le Canada, aux premières loges, a décidé, lui, d'attendre pour réagir. La Commission, je cite, ne voit aucune justification à l'imposition de droits de douane. Elle promet officiellement de réagir pour protéger les intérêts des entreprises, des travailleurs, des consommateurs contre des mesures injustifiées. L'imposition de droits de douane, je cite, serait illégale et contre-productive. Selon la Commission, il n'y a en fait pas de déséquilibre de la balance commerciale transatlantique car le déficit commercial des biens européens exportés vers les États-Unis est quasiment compensé par l'excédent commercial des services américains exportés vers l'Union européenne.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour RFI.
Massoud Pezeshkian, le président iranien, accuse Donald Trump de vouloir mettre l'Iran à genoux.
Propos tenu aujourd'hui lors d'un discours à l'occasion du 46e anniversaire de la Révolution, après la signature d'un texte mardi par le chef d'État américain prévoyant de nouvelles sanctions contre le secteur pétrolier iranien, notamment la proposition de Donald Trump de contrôler la bande de Gaza et déplacer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie a quant à elle été jugée révolutionnaire par Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Scandaleuse par Olaf Scholz, chancelier allemand. Benjamin Netanyahou qui repousse encore de 3 mois l'établissement d'une commission d'enquête d'État sur les attaques du 7 octobre, les plus meurtrières de l'histoire d'Israël. Et cela, malgré la colère grandissante des familles des otages et des victimes. Elles se sont encore fait entendre hier soir alors que se tenait la réunion du cabinet de sécurité présidé par le premier ministre israélien. Abla Jounaidi, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Jérusalem et au sein même de ce cabinet, eh bien les désaccords se sont fait entendre hier soir.
Les familles des otages ont publié une nouvelle pétition hier pour demander au gouvernement Netanyahou de la transparence. De la transparence sur l'accord passé avec le Hamas concernant les otages. De la transparence, c'est aussi ce qu'a exigé hier lors du cabinet de sécurité la procureure Galiba Ravmiara. Cette personnalité qui a une double casquette, celle de conseillère du gouvernement en matière légale et de procureure chargée de l'action publique, n'a pas ménagé ses critiques. Elle a demandé au gouvernement d'expliquer ce choix de ne pas lancer rapidement de commission d'enquête sur les failles sécuritaire du 7 octobre 2023. Tout silence prolongé risque de laisser prospérer le doute et les théories du complot, a-t-elle prévenu. Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 démissions importantes autour de ce dossier sensible, le chef d'état-major fin janvier et celle du chef des renseignements militaires l'année dernière. Les autres responsables sécuritaires sont restés en place. Ils ont été accusés de négligence des avertissements concernant une attaque éventuelle du Hamas par une commission d'enquête indépendante en novembre dernier. Mais pour l'heure, une enquête nationale officielle, que ce soit gouvernementale ou parlementaire, se fait toujours attendre. Abla Jounaïdi, Jérusalem, RFI.
Et pendant ce temps-là, la tension monte autour de l'après-guerre dans l'enclave palestinienne. Israël a achevé hier son retrait du couloir de Netzarim qui coupe Gaza d'est en ouest et a annoncé avoir mené un raid aérien contre un tunnel à la frontière libano-syrienne utilisé, selon l'armée israélienne, par le Hezbollah pour la contrebande d'armes.
Daniel Noboa, le président sortant équatorien, en tête du premier tour de la présidentielle.
Oui, il devance d'une très courte tête sa rivale de gauche, Luisa González, 44,3% des voix contre 43,8% à ce premier tour après le dépouillement de plus de 90% des bulletins de vote.
Et pour analyser ces résultats, notre invitée dans quelques minutes, juste après ce journal, la directrice du Centre d'études équatoriennes, professeure de civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre, Emmanuelle Sinardet.
Paris, capitale mondiale de l'intelligence artificielle en ce moment. Les dirigeants politiques et de la tech sont réunis dans la capitale française pour participer jusqu'à demain au sommet sur l'IA co-présidé avec l'Inde. 1500 personnes présentes. Et si les États-Unis et la Chine sont à la pointe sur le sujet, la France compte bien rattraper son retard. Helsing et Mistral, deux jeunes entreprises innovantes françaises, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour révolutionner le secteur de la défense propice au développement de l'IA. Antoine de Braquilange, directeur d'Helsing.
Helsing et Mistral ont annoncé un partenariat important, structurant, je pense, dans le monde de l'IA et de l'IA de défense. Évidemment, en tant que deux entreprises françaises et européennes, l'idée de cette association, c'est de pouvoir monter rapidement à l'échelle industrielle et de profiter finalement des modèles et de l'excellence technologique de Mistral sur des modèles complexes, notamment qui seront utiles pour l'autonomie des plateformes de défense et de travailler ensemble sur la mise en production de ces technologies dans un contexte français et européen à moyen long terme. Donc je pense que c'est aussi un symbole important de l'Europe qui est capable, en créant des associations d'acteurs innovants qui ont de l'ambition de créer des champions français et européens à vocation mondiale. Rien que finalement l'échelle d'Helsing ou l'échelle de Mistral en termes de talent, de maturité technologique, de capitaux à disposition, fait qu'aujourd'hui, on est à deux encore mieux armés pour développer des capacités, développer des solutions d'IA de défense et qu'on pourra proposer aux armées françaises et européennes dans différents domaines.
Antoine de Braquilange au micro RFI de Franck Alexandre.
À l'époque, ils étaient près de 200 signataires de l'accord de Paris sur le climat.
Mais seulement une dizaine de pays ont respecté la date fixée à aujourd'hui par les Nations Unies pour soumettre leur nouveau plan de lutte contre le changement climatique. Ils doivent le faire tous les 5 ans. C'est ce qu'indique ce lundi l'ONU Climat. Parmi les retardataires, la plupart des grandes puissances mondiales, la Chine, l'Inde ou encore l'Union européenne, les précisions de Simon Rosé.
Il s'agit sans doute d'un des documents les plus importants que produiront les gouvernements durant ce siècle. Par rancunier, Simon Steele, le patron de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, il reconnaît le besoin d'un délai supplémentaire pour la grande majorité des pays dans la livraison de leur plan climat. Le document est en effet essentiel. Il liste toutes les actions et objectifs pris nationalement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces plans doivent être mis à jour tous les 5 ans et ceux en vigueur actuellement mènent à un réchauffement de 2,6 degrés, bien loin de l'objectif de l'accord de Paris. L'enjeu est donc d'avoir d'ici la COP30 au Brésil en fin d'année des plans plus ambitieux, susceptibles de redresser la barre. Mais voilà, à date, seuls 10 pays ont remis leur copie. Manquent encore des poids lourds tels que la Chine, l'Inde ou l'Union européenne. Les États-Unis ont soumis la leur en décembre dernier. Elle est cependant caduque avec la sortie du pays de l'accord de Paris. Une sortie qui risque d'amoindrir la pression sur la Chine, sur la Russie ou l'Arabie Saoudite ainsi que d'autres grands émetteurs de gaz à effet de serre qui pourraient alors proposer des plans climat moins ambitieux.
Simon Rosé, il est 14h09 à Paris, 1h de moins en temps universel. On vous retrouve, Anne Cantner, dans RFI Midi.
Merci Alban Leprince. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes sur RFI. Et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. D'abord en Équateur, au lendemain des élections générales. Avec un premier tour aux allures de finale pour deux candidats au coude à coude, les deux favoris à la présidentielle ont très très largement dominé le scrutin hier. Un peu plus de 90% des bulletins ont été dépouillés. Le sortant, Daniel Noboa, est en tête avec 44,3% des voix contre 43,8% pour la candidate de gauche, Luisa González. Pour analyser ces résultats, nous recevons Emmanuelle Sinardet, professeure de civilisation latino-américaine et directrice du Centre d'études équatoriennes à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Noboa visait une victoire dès le premier tour. Est-ce que c'est encore possible au regard des chiffres dont on dispose à l'heure qu'il est ?
Non, aujourd'hui et à l'heure qu'il est, il est acté qu'il y aura un second tour avec Daniel Noboa et Luisa González. Et un résultat assez surprenant, puisque généralement, c'est la configuration que l'on trouve au deuxième tour, c'est-à-dire une forte polarisation avec d'un côté un courant coréiste qui existe comme première force politique et qui se trouve logiquement au second tour, ici incarné par Luisa González, face à lui un candidat anti-coréiste et qui agglutine les électeurs qui ne veulent absolument pas d'un retour de la Révolution Ciudadana au gouvernement. Mais ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est aussi une polarisation entre deux styles, et c'est quelque chose de nouveau, avec d'un côté le style de Daniel Noboa, qui est une campagne sur les réseaux sociaux avec très peu d'interviews, et très peu de contact avec la population et le public direct, beaucoup de TikTok et d'influenceurs qui relaient son message, et de l'autre côté, une campagne beaucoup plus traditionnelle avec Luisa González, qui est présente évidemment sur les réseaux, mais qui va au contact de la population. Et ces deux styles réellement différents vont essayer de capter dans ce second tour qui se présente eh bien, les voix finalement des indécis d'un côté, mais aussi finalement des voix au centre. À peu près 20% de la population n'aura pas voté pour ces deux candidats au premier tour. Et c'est finalement très peu de voix à capter. La lutte promet d'être acharnée.
Et qu'est-ce qui a manqué à Daniel Noboa pour l'emporter dès le premier tour, ce qui était son objectif? Est-ce que c'est justement cette absence de terrain dont vous nous parliez?
Je ne pense pas, parce qu'il a réussi à compenser cette absence sur le terrain par véritablement une campagne digitale, numérique, assez exemplaire en termes de politique de communication, avec beaucoup de messages qui rebondissent via des influenceurs. En fait, je pense que le grand changement aujourd'hui pour Daniel Noboa, c'est qu'il n'est plus le candidat outsider du mois d'août 2023, où il se présentait comme une figure absolument nouvelle en politique. C'est qu'aujourd'hui, c'est le président Noboa qui est candidat à sa propre réélection. Et on peut voir déjà une certaine forme d'usure. Il faut rappeler que ce gouvernement gouverne depuis plus d'un an dans un état d'exception qui s'est prolongé dans différentes zones du pays.
Oui, alors on va rappeler justement ces conditions assez particulières pour cette élection. C'est que Daniel Noboa a été élu, donc vous nous l'avez rappelé, en 2023, à l'époque pour terminer le mandat du président Lasso qui était démissionnaire. À ce moment-là, il se présentait comme un candidat de centre-gauche. Ça n'est pas vraiment ce qu'on a vu là au cours de ses 15 mois de pouvoir. Ça n'est pas non plus ce qu'il a promis pendant sa campagne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement?
Alors, en effet, il se présentait comme un candidat de centre-gauche. Il se présente d'ailleurs toujours comme un candidat de centre-gauche, mais en réalité, ce n'est pas un idéologue, et il n'a pas véritablement dans son programme une réelle cohérence ni consistance, on va dire, en termes d'orientation idéologique. Il est d'une certaine façon un pragmatique, et avec l'aggravation de la situation sécuritaire, il a joué la carte de l'homme qui allait sauver le pays du chaos, l'homme qui a la main dure, hein, je traduis, mano dura, mais qui est devenu aujourd'hui une expression de tous les jours. Et sa promesse, c'est de véritablement contenir les violences qui viennent de cette lutte sur le territoire national entre différents groupes liés à la criminalité organisée mondiale, transnationale et notamment au trafic de drogue.
Avec notamment ce que vous aviez commencé à évoquer, donc la déclaration d'un état de guerre intérieure. Le pays est aussi en état d'urgence. Il est en guerre, oui, contre le narcotrafic, mais la méthode de Daniel Noboa est critiquée, notamment par les défenseurs des droits humains. Est-ce qu'elle a eu au moins quelques effets concrets?
Alors, je pense que ce qui a pu générer un doute chez les électeurs qui n'auraient pas voté pour lui, c'est plutôt les résultats. Puisque après justement la proclamation et la mise en place de la militarisation en janvier dernier, il y a eu une baisse, il est vrai, de la criminalité et de la violence d'environ 15%. Mais depuis, elle a repris de plus belle, et le mois de janvier, le mois qui vient de s'écouler en réalité, a été le plus violent de toute l'histoire du pays. Or, il est jugé sur ces résultats. Alors en effet, une partie de la population s'est beaucoup émue de cas de violation des droits de l'homme dans la lutte contre ces narcotrafiquants, notamment un cas de dramatique de disparition forcée de 4 enfants juste à la veille de Noël, dont les corps calcinés ont été retrouvés abandonnés. Et l'opposition à Noboa l'accuse en réalité de dérive autoritaire et Luisa González donc l'accuse directement d'être un dictateur. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a parmi la population malgré tout, d'un côté une sensibilité à ces questions, mais de l'autre, dans une autre partie de l'électorat, la volonté de voir des résultats et finalement une sorte de tolérance à, en effet, des dérives autoritaires, à un non-respect de certaines mesures de la Constitution. Ce qui joue contre Noboa, finalement, aujourd'hui, c'est que ces résultats ne sont pas très convaincants, que ce soit dans la lutte contre la criminalité internationale, que ce soit aussi dans le domaine économique. Et pour preuve, la crise économique est en partie liée à une terrible crise énergétique avec une sécheresse qui a rendu inopérante la production hydroélectrique et qui a donné lieu depuis septembre dernier jusqu'à à peu près décembre, début janvier, à des coupures d'électricité qui, dans certaines zones, aller jusqu'à 14 heures.
Avec des conséquences donc très pesantes et très visibles pour la population. Qu'est-ce qu'elle propose, elle, Luisa González, sur ces questions-là, la crise à la fois économique et sécuritaire ?
Alors, pour la crise sécuritaire, finalement, elle ne propose rien de bien nouveau. Et en réalité, il faut bien dire que son programme, comme d'ailleurs les programmes des 16 candidats de ce premier tour, n'aborde jamais véritablement les questions concrètes. C'est un peu la surenchère en termes de sécurité. C'est un catalogue de mesures, plus qu'une vision sur le long terme d'une lutte qui sera, pour être efficace, nécessairement une lutte avec une approche non seulement régionale, mais même mondiale, de ce qu'est aujourd'hui la criminalité organisée. On ne voit pas ça. Elle essaye en tout cas de se présenter comme capable de restaurer la sécurité dans les rues. Et puis, elle a une très forte promesse d'inclusion via le développement économique avec un retour de l'État dans, comme moteur, si vous voulez, de nouveaux projets économiques. Comment ? Avec quel budget ? On ne sait pas. Elle s'est bien gardée, en tout cas, de le dire. Mais elle n'est pas la seule, puisque Daniel Noboa non plus ne donne pas de plan à court terme, moyen terme ou long terme autour de moyens et de mesures précises et concrètes pour réaliser les ambitions présentées.
Donc, deux programmes assez flous. Il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais quand même vous entendre sur ce qui se dessine au Parlement, puisqu'a priori, on se dirige vers le même équilibre des forces que ce qu'on observe là pour le résultat de la présidentielle du premier tour. Une grande polarisation entre le parti de Luisa González et celui de Daniel Noboa. Est-ce que les deux forces politiques risquent de se neutraliser, selon vous ?
Neutraliser, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ce second tour présidentiel, ça va être très difficile pour chacun des candidats d'arriver à capter efficacement ces 20% finalement de voix qui vont se trouver au centre. Pour Daniel Noboa, il s'agira en effet de rassurer sur la question des droits de l'homme. Pour Luisa González, il s'agira de convaincre les électeurs indécis qu'elle peut faire du coréisme sans Coréa, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'héritière direct de Rafael Correa, qui reste une figure clivante et dont l'ombre plane finalement toujours sur les coréistes.
L'ancien président socialiste Rafael Correa, qui aujourd'hui est en exil, est condamné pour corruption par la justice de son pays. Je vous remercie beaucoup Emmanuel Sinardet d'avoir été en ligne avec nous, professeur de civilisation latino-américaine et directrice du Centre d'études équatoriennes de l'Université Paris-Nanterre. Merci.
Merci.
RFI, la radio del mundo.
En cette journée de sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, ce grand rendez-vous sur les possibilités, mais aussi sur les dérives de ces nouvelles technologies, nous vous emmenons aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, où l'IA intéresse aussi les passeurs. Elle permet aux groupes criminels de soutirer toujours plus d'argent à ceux qui souhaitent entrer aux États-Unis et à leurs proches. Notre correspondant Eric Sanson a pu rencontrer la famille d'une jeune femme disparue. Voici son reportage.
Patricia Carcimo-Rosso est une migrante de 37 ans, disparue dans l'enfer de la frontière entre le Mexique et le sud des États-Unis. Travailleur de la construction, installé sans visa dans l'état du Massachusetts depuis 4 ans, son frère Wilmer est désespéré.
Je n'ai pas de nouvelles de ma sœur. Elle a quitté l'Équateur le 16 août 2023. J'ai été en contact avec elle le 9 septembre et depuis, rien.
Patricia a payé un passeur, que l'on appelle ici un coyote, pour traverser la frontière, celui-là même qui avait fait passer son frère Wilmer. Mais l'issue du voyage n'a pas été la même. Un autre frère de Patricia, resté en Équateur, a d'abord reçu une première vidéo la montrant agonisant dans le désert. Plus tard, deux autres vidéos ont suivi. Patricia était apparemment rétablie, mais il fallait payer pour la faire sortir d'un hôpital au Texas. La famille en Équateur a cédé.
Ils m'ont envoyé une autre vidéo d'elle. Comme j'étais angoissée pour ma sœur, j'ai cru que la vidéo était vraie. Toute la famille a cru et on a commencé à envoyer beaucoup d'argent.
Une somme d'autant plus importante, selon Wilmer, que l'Équateur est un pays dollarisé depuis près de 25 ans et que ses ressortissants sont des cibles de choix pour les mafias.
Au début, ils demandaient 5 000 $ et puis peu à peu, ils ont exigé plus, jusqu'à ce qu'on paie 13 500 $. Mais on ne sait toujours pas où elle est et si elle est toujours vivante. Parfois, j'ai de l'espoir, parfois je n'en ai pas. En fait, on ne sait rien. J'aimerais avoir de bonnes nouvelles pour être avec elle un jour, mais même si les nouvelles ne sont pas bonnes, je voudrais savoir.
Selon Jenny Bryson Clark, experte en trafic de personnes de l'Université du Sud du Texas à McAllen, la technologie fonctionne bien en faveur des délinquants.
Ils utilisent l'intelligence artificielle pour imiter la voix des gens qu'ils font traverser. Il suffit de faire en sorte qu'un migrant ait répondu à une question et cela suffit pour imiter sa voix. Ensuite, ils envoient de faux messages. Personne ne pourrait deviner qu'il s'agit d'intelligence artificielle et les organisations criminelles en profitent pour t'extorquer.
À New York, William Murillo est le cofondateur de l'ONG Uno 800 Migrantes. L'utilisation frauduleuse de l'intelligence artificielle pour escroquer les familles ne le surprend pas.
Les délinquants envoient des photos et des vidéos manipulées de migrants qu'ils n'ont pas sous leur contrôle. Dans le cas contraire, il suffirait de faire un appel vidéo. On peut détecter l'usage d'intelligence artificielle en regardant les yeux. Parfois, l'un est grand ouvert et la pupille n'apparaît pas sur l'autre. Les mains et le corps ne bougent pas et il n'y a pas de son.
Fille de migrants et directrice juridique de l'ONG, Andrea Ledesma suit les cas de plus de 150 Équatoriens disparus à la frontière sud des États-Unis. Elle est témoin de l'usage croissant de l'intelligence artificielle.
Ils prennent une photo et ils rajoutent la voix de la personne, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle. Quand le père ou la mère d'un migrant reçoivent une vidéo de leur enfant avec une arme sur la tempe, ils paniquent et ne détectent pas la falsification comme d'autres personnes pourraient le faire.
D'où les conseils de William Murillo pour éviter de se faire manipuler.
Il faut éviter que le père, la mère ou les enfants négocient avec les ravisseurs. Ils sont trop proches des victimes. Si je vois mon fils et qu'on lui met une arme sur la tempe, je vais craquer émotionnellement.
Un conseil qu'il faudrait malheureusement transmettre chaque jour à plus de familles de migrants, alors que la crise pousse toujours plus d'Équatoriens à tenter de passer aux États-Unis, une aventure que l'intelligence artificielle rend plus dangereuse que jamais. Éric Sanson, New York, RFI.
L'actualité du continent, c'est aussi la crise au sein du gouvernement en Colombie et c'est à la une de votre revue de presse, Achim Lippold. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le président Petro doit remanier son cabinet après la démission de 4 ministres en 5 jours seulement.
Oui, exactement. Un séisme politique secoue le gouvernement, titre ce matin El Tiempo. Les tensions sont apparues au grand jour lors d'un conseil des ministres houleux la semaine dernière, retransmis en direct à la télévision nationale. Le président y a non seulement critiqué ses ministres, mais aussi annoncé la nomination d'un nouveau chef de cabinet, une figure très controversée. El Colombiano rappelle que cette figure, Armando Benedetti, est poursuivi par la Cour suprême pour corruption et visé aussi par des accusations de violence à l'égard des femmes. Le quotidien s'interroge alors pourquoi Gustavo Petro défend-il ce personnage de façon si étrange que c'est Benedetti pour piéger Petro, s'interroge le journal, citant des responsables politiques qui évoquent un possible chantage de cet ex-ambassadeur sur le président colombien.
Autre sujet dans la presse aujourd'hui, un revers pour Donald Trump et pour sa politique anti-immigration, puisque la justice américaine interdit au gouvernement de transférer 3 Vénézuéliens détenus à Guantanamo.
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui dans le New York Times, les 3 hommes font l'objet d'ordres d'expulsion après le rejet de leur demande d'asile, mais n'ont pas été rapatriés en raison de la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela. Le journal précise que la contestation juridique reste limitée. En fait, il ne s'agit pas d'empêcher l'administration américaine d'envoyer d'autres migrants à Guantanamo, mais de protéger spécifiquement ces 3 détenus. Selon leurs avocats, ils sont accusés d'être liés au gang Tren de Aragua. La décision fédérale, alors visiblement, ne plaît pas à la Maison Blanche. Le vice-président J.D. Vance critique les juges. Ils ne sont pas autorisés à contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. Des propos relayés notamment par The Hill.
Revue de presse signée Achim Lippold, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, et on vous retrouve Alex Léveillé pour parler d'abord de la Martinique où on apprend qu'il y aurait plus d'hommes que de femmes qui tenteraient de se suicider.
Et oui, c'est ce que disent les chiffres, mais comment l'expliquer? Voilà, avec Bianca Carreto de Martinique La Première.
Avoir le sentiment d'être déshumanisé, sans solution, incompris, c'est le cas des hommes battus, des hommes ayant été victimes d'inceste ou encore des pères qui doivent faire face à des conflits familiaux. Ceux-là, l'association La Papam les accompagne, son président Marc-François Calmeau.
Dire sur une année, je peux tomber sur 10 papas qui arrivent en pleurant. Quand ils sont au bout, qui ne peuvent plus, même dans leur travail, ça a un impact.
Les tentatives de suicide existent également dans la communauté LGBT+. Pour ne pas passer à l'acte, Brice Armien, le président de Cap Caraïbes, nous explique qu'une bonne partie décide de changer d'environnement.
Ils s'en vont pour exister, voilà. Mais quand ils n'ont pas cette possibilité-là, ça peut amener à des comportements autodestructeurs dans la consommation d'alcool, de stupéfiants, de la violence aussi. Ça peut être aussi de l'automutilation.
Les hommes, un public qui a encore du mal à consulter, car ils parviendraient moins à verbaliser leurs émotions. Il faut que cela change pour la psychologue Cédrine Ouka.
L'idée qu'ils doivent justement être forts, ils doivent être indépendants, ne pas exprimer leurs émotions. Forcément, ils vont moins demander d'aide lorsqu'ils souffrent. Encore plus dans notre situation de peuple antillais, l'homme n'est pas censé dire qu'il va mal. Et le tout, c'est de pouvoir en parler pour éviter justement des situations un peu plus graves.
La santé mentale chez les hommes est encore tabou en Martinique. Or, les troubles mentaux sont identifiés comme la principale cause du suicide.
Un sujet signé Bianca Carreto de Martinique La Première. Et autre enquête, mais cette fois-ci en Guadeloupe, du syndicat national des chefs d'établissement. Il confirme le non-remplacement fréquent des professeurs au-delà de 2 semaines d'absence. Colette Borda de Guadeloupe La Première.
Des profs pas remplacés ou ponctuellement des parents d'élèves exaspérés, c'était début janvier au Sainte et à Marie-Galante, une grogne récurrente chez nous et aujourd'hui confirmée par cette enquête qui émane du syndicat même des chefs d'établissement. Selon le constat, seul un établissement sur 3 voit tous ses professeurs remplacés. Toujours d'après ce document, seulement 10% d'entre eux ont leur personnel au complet, administratif compris. Au-delà de 2 semaines d'absence, de moins en moins de remplacements, conséquence des personnels multitâches et épuisés et surtout des milliers d'heures de cours perdues, notamment pour les candidats au baccalauréat.
Colette Borda de Guadeloupe La Première et c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous et merci à Diane Conné pour la réalisation.
Merci Alex Léveillé. On va écouter un peu de musique avant de se quitter avec Quantique et Nidia Gongora, ce morceau Balada Borracha.
El fin de semana. Ahí viene Jaidito, ¿para dónde irá? Fiesta, compadre.
Ahí viene feliz y contento por las escaleras. Ahí viene feliz y contento por las escaleras.
Ya llegué.
Sube por la escalera, sube.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Diego Tenorio. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix. Très bonne journée à tous.